Le journal de la rédaction avec vous, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour Florian, bonjour à tous. D'un patrimoine à l'autre, le président italien Sergio Mattarella est attendu ce matin sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame à Paris, avant de rejoindre le Clos Lucé en Indre-et-Loire, dernière demeure de Léonard de Vinci, qui est mort il y a 500 ans jour pour jour. Au Clos Lucé, justement, la direction des affaires culturelles du Val-de-Loire a porté plainte contre la famille propriétaire pour destruction de monuments historiques. C'était lors de la rénovation. Les détails dans un instant.
Et puis nous reviendrons également sur la journée de manifestation du 1er mai hier. À Paris, les syndicats n'ont pas fait le poids face aux casseurs et surtout au gaz lacrymogène des forces de l'ordre.
Au Soudan, c'est aujourd'hui qu'une grande manifestation se profile. Une marche d'un million de personnes est prévue pour maintenir la pression sur les militaires. Les négociations sur un transfert du pouvoir aux civils piétinent.
Il n'y a pas de négociation possible, en revanche, avec les États-Unis sur certaines sanctions économiques. Aujourd'hui, Washington durcit sa pression envers les pays qui commercent avec l'Iran.
Et puis, quelle place pour le Luxembourg dans l'Union européenne? La caravane de France Culture nous y emmène ce matin à moins d'un mois des élections. Il est mort il y a très exactement 500 ans. Le voici à l'honneur ce jeudi chez lui à Amboise en Indre-et-Loire. Le voici aussi au cœur de la réconciliation franco-italienne. Léonard de Vinci, célébré par Emmanuel Macron et son homologue italien Sergio Mattarella, ils vont se retrouver en fin de matinée au Clos Lucé qui a abrité les trois dernières années de la vie du maître italien. Un manoir privé qui appartient à la famille Saint-Brice depuis 1954. Elle a entrepris d'importants travaux pour restaurer le Clos Lucé et pour attirer les visiteurs. Mais ce faisant, des pièces datant du XVIIIe siècle auraient été détruites alors qu'elles étaient classées monuments historiques. La Tribune de l'Art s'en fait écho cette semaine, Cécile de Kervas-Doué.
Ce lieu unique, témoin de l'esprit visionnaire de Léonard, a été précieusement conservé jusqu'à nous.
Contrairement à ce qu'affirme la vidéo de présentation du Clos Lucé, la Tribune de l'Art, photo à l'appui, décrit les destructions qu'a subies le manoir, pourtant classé monument historique depuis 1862. Au moins trois pièces au rez-de-chaussée et deux pièces à l'étage ont vu leurs boiseries arrachées, les sols et les plafonds modifiés, les fenêtres bouchées alors que de nouvelles baies vitrées étaient percées et une cheminée démontée. Leur tort, daté du XVIIIe siècle, car l'objectif de la famille Saint-Brice depuis 1954 est de reconstituer le manoir afin de donner l'impression aux visiteurs que ces pièces sont bien celles dans lesquelles Léonard de Vinci a eu son atelier, sa bibliothèque et son cabinet de travail. Et ça marche. Depuis le début de l'année, le Clos Lucé affiche une fréquentation en hausse avec 100 000 entrées à 15 euros par personne.
C'est parti pour un incroyable voyage dans le temps où l'on se promène dans l'atelier de peinture du maître.
Le procureur de la République qui vient de prendre son poste à Tours a confirmé qu'une plainte a bien été déposée par la DRAC en 2017 pour travaux sur monuments historiques sans autorisation et destruction de monuments historiques. Une enquête judiciaire est maintenant en cours qui déterminera s'il y a poursuite. La peine maximale pour destruction de biens classés peut atteindre 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
Alors Cécile, la question de la restauration de monuments classés, elle se pose aussi et toujours concernant la cathédrale Notre-Dame de Paris, touchée par un incendie il y a 3 semaines. La future loi voulue par Emmanuel Macron est, hasard du calendrier, présentée aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale et elle suscite déjà beaucoup de critiques, Cécile.
Depuis le début de la semaine, la fronde des spécialistes du patrimoine s'est intensifiée. Plus de 1000 experts ont demandé par voie de presse au président Emmanuel Macron d'être patient avec la restauration de la cathédrale Notre-Dame. Parmi eux, des spécialistes du monde entier, mais aussi des fonctionnaires sortis de leur droit de réserve, des universitaires et des élèves conservateurs. Ils craignent que la loi d'exception voulue par le président pour reconstruire Notre-Dame en 5 ans ne nuise à Notre-Dame et à tous les monuments historiques. En cause, l'article 9, le dernier article de ce projet de loi, qui permet au gouvernement de décider par ordonnance des travaux de restauration en s'affranchissant des règles d'urbanisme, des règles de protection d'environnement, des règles de commande publique et surtout du code du patrimoine. Fini donc toutes les procédures de restauration des monuments historiques, fini les commissions, les études, les contrôles ou l'archéologie préventive, il faut aller vite pour que Notre-Dame soit prête pour les Jeux Olympiques.
Merci Cécile de Kervas-Doué pour ces précisions ce matin. Un nuage de gaz lacrymogène à Paris, c'était hier pour le 1er mai. Si militants syndicaux et gilets jaunes ont défilé dans une bonne ambiance en région, la situation fut plus tendue et confuse dans la capitale. Là, des casseurs se sont très vite infiltrés dans le cortège mené par la CGT. Mélangés aux manifestants pacifiques, ils ont poussé les forces de l'ordre à repousser tout le monde sans distinction. Récit parisien signé ce matin Maxime Fayol.
Les premiers manifestants arrivés place d'Italie ont rapidement été rejetés à coups de gaz lacrymogène après des heurts devant le commissariat du 13e arrondissement. Christophe est l'un d'entre eux, il est contraint de redescendre quelques centaines de mètres plus bas.
On n'a absolument pas compris pour quelle raison on a reçu en fait une vague de lacrymogène. Alors, qui est d'ailleurs, je le comprends effectivement, les forces de l'ordre, en fait, ils réagissent. Hein. Moi, ça, on est dans un état de droit, hein, c'est tout à fait normal. Mais de commencer, en fait, à lancer des gaz sur toute une masse de population qui est, en fait, pacifiste et qui n'est pas située du tout, en fait, à l'endroit où sont les leurs, moi, pour moi, c'est incompréhensible. On veut simplement aller place d'Italie comme convenu, faire acte de présence, quoi, comme tout citoyen, et puis après rentrer chez soi tranquillement et pacifiquement, quoi.
À ce moment-là, des CRS arrivent par derrière, dans l'autre sens, prenant quelques centaines de manifestants en sandwich.
Il y a personne, ils allument là. Mais c'est quoi ces flics là?
Des détonations par dizaines, des canons à eau activés et surtout du gaz lacrymogène partout dans l'air.
Tu te détends, tu restes au calme maintenant, d'accord? Et puis voilà, si tu veux un petit peu de sérumphie.
Non, désolé, j'ai encore un peu de mal à parler.
Siem nous explique ce qui s'est passé.
Les casseurs sont passés dans les rues adjacentes, ils ont libéré par là et après tout le monde est dans la même rangée. C'est la même souricière comme d'hab. Ils auraient pu l'éviter. Parce que si moi je vois les casseurs, ils le voient mieux que moi.
Quelques minutes après, c'est au tour des policiers de la BAC d'arriver par dizaines. Ils frappent un manifestant au sol juste devant nous. Une violence disproportionnée dénoncée par Delphine.
Moi je suis venue plusieurs fois en manif gilet jaune, mais c'est la première fois que je me fais autant gazer. Maintenant, moi, je déteste pas la police. Je pense qu'il y en a des bons. Il y en a quand même certains qui ont été sympas avec nous. Mais ça fait peur, ouais, bien sûr. Mais même si on a peur, ben, on continuera à venir. Pourquoi on lâcherait ?
Delphine, qui compte bien revenir manifester dès ce samedi.
La réponse des forces de l'ordre était-elle disproportionnée? Hier, ont-elles ciblé aussi les syndicalistes? Le secrétaire général de la CGT l'affirme, lui. Philippe Martinez a été contraint hier de quitter brièvement le cortège. Il était tout simplement au mauvais endroit, explique le secrétaire national adjoint d'Alliance, Loïc Travers.
Les Black Box ont formé un attroupement en début de cortège, très proche effectivement de lui et de ses sympathisants, adhérents et d'autres personnes. Ces Black Blocs, eh bien, sont devenus de plus en plus véhéments. Leur nombre a grossi en quelques minutes. Eh bien, les policiers sont tout simplement intervenus pour pas que ce nombre de Black Blocs s'intensifie encore plus. Alors, n'en déplaise à M. Martinez, qui a effectivement respiré un petit peu de gaz, mais c'était un mal nécessaire pour que le reste de ses militants, sympathisants, voire adhérents, eh bien, puissent manifester le reste de la journée. Il se trompe complètement de combat et la réaction est parfaitement adaptée et comme on le souhaitait de la police.
Loïc Travers du syndicat de police Alliance, il répondait à Claire Flochel. Notons qu'hier, 315 personnes étaient encore en garde à vue à Paris, hier soir. Dans la capitale, le cabinet Occurrence a compté pour un collectif de médias dont Radio France. Ce cabinet a compté 40 000 manifestants à Paris. Partout en France, entre 164 000 et 310 000 personnes ont manifesté pour cette fête du travail. Ajoutons par ailleurs que le ton de responsable politique est monté hier dans les médias après l'irruption à Paris, toujours de manifestants à la Pitié-Salpêtrière. Ils ont rapidement été évacués de l'hôpital. Si le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, évoque une attaque de cet hôpital, des journalistes vidéos à l'appui expliquent eux que certains manifestants se sont au contraire réfugiés dans l'établissement devant une charge de policiers. Emmanuel Macron ou le chaos, voici le thème du billet politique. Ce matin, retour sur un 1er mai pas comme les autres. Ce sera avec Stéphane Robert, juste après ce journal.
8h08 sur France Culture et des manifestations ont eu lieu aussi hier au Venezuela.
Des manifestations là bien plus violentes. Selon l'Observatoire vénézuélien des conflits sociaux, une femme est morte hier après avoir reçu une balle lors d'un rassemblement à Caracas. L'opposant Juan Guaido n'a toutefois pas réussi à mobiliser autant qu'il le souhaitait dans les rues. Il appelle maintenant à une grève générale contre le pouvoir de Nicolas Maduro. Le peuple qui se fait entendre, c'est aussi le cas au Soudan. Militaires et représentants de la société civile ne parviennent finalement pas à tomber d'accord sur une possible alliance. Après l'éviction du président Omar el-Béchir, des milliers de Soudanais continuent donc depuis presque un mois à camper devant le quartier général de l'armée à Khartoum, Olivia Macadré.
Omar el-Béchir a été destitué il y a plus de 15 jours, mais les abords du ministère de la Défense soudanais ne désemplissent pas. Checkpoint, musique, slogan, rien n'a changé. Les Soudanais ont décidé de ne pas quitter la rue. C'est le cas de Montassir.
Nos demandes sont aussi claires que le jour. On veut remercier l'armée d'avoir aidé le processus révolutionnaire, mais nous refusons le pouvoir militaire. Il faut qu'il transfère ce pouvoir à des civils.
Le conseil militaire de transition et les leaders d'opposition n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la proportion de militaires et de civils au sein du futur gouvernement. Abdallah s'inquiète que les militaires veuillent s'accaparer le pouvoir dans la durée.
On s'est déjà fait avoir dans le passé, il y a 30 ans, donc maintenant on veut des garanties. Même si les civils prennent 60% du pouvoir, on ne partira pas d'ici.
Les manifestants, même les très jeunes, veulent aussi que les militaires leur rendent des comptes. Ils réclament justice pour les martyrs et la garantie que l'ancien président sera poursuivi en justice pour ses crimes.
Je veux demander justice pour les martyrs qui sont morts. Le sang versé a de la valeur.
Si Al-Bachir ne va pas en prison, si les militaires ne veulent pas s'en occuper, qui nous le donne ? Nous, on saura quoi faire de lui.
Si le Conseil de transition militaire a annoncé un accord avec les leaders d'opposition, en réalité, il n'en est rien et les négociations s'enlisent. Dans la soirée, les manifestants vont organiser un rassemblement de grande ampleur pour mettre la pression sur les militaires.
Voilà pour un reportage rare depuis le Soudan. C'était Olivia Macadré à Khartoum pour France Culture. C'est la fin des exemptions américaines pour 8 pays qui pouvaient encore jusque-là acheter du pétrole à l'Iran. À partir d'aujourd'hui, ils risquent de lourdes amendes de la part des États-Unis s'ils font ces transactions en dollars. Parmi les pays concernés, il y a la Turquie qui se fournissait encore il y a peu en Iran à Nandlower.
Lorsque Washington lui a signifié qu'elle ne pourrait plus acheter de pétrole iranien, la Turquie a semblé vouloir tenir tête, jugeant les sanctions inacceptables. En réalité, dès que les États-Unis ont rétabli leur embargo sur l'Iran, et même avant que sa dérogation ne prenne fin, Ankara avait quasiment tari ses achats de pétrole à Téhéran, souligne El-Nour Ismail, chercheur au think tank turc Bil Gessam.
À une époque, l'Iran a représenté jusqu'à 50% des importations de pétrole turc. Mais en novembre 2018, par exemple, la Turquie n'a pas acheté de pétrole iranien. Les importations ont un peu repris en janvier, de l'ordre de 10%, mais clairement la politique turque est de chercher des alternatives. À partir d'aujourd'hui, on peut considérer que la Turquie va se conformer aux sanctions américaines et n'importera plus de pétrole iranien.
Dépourvue d'hydrocarbures, la Turquie est contrainte aux importations. Privée de son fournisseur iranien, elle devrait se tourner principalement vers l'Irak et la Russie, même si ces alternatives ont un coût.
C'est surtout vrai pour le pétrole russe, qui n'est pas transporté par oléoduc comme le pétrole irakien, mais par tanker, ce qui augmente les coûts. La Turquie va en souffrir économiquement, cela aura un impact sur son déficit courant et cela va aussi provoquer une augmentation des coûts du pétrole et de ses produits dérivés, notamment pour les industriels.
Un coût supplémentaire dont la Turquie se serait bien passée, alors qu'elle affronte des taux d'inflation records et une récession économique depuis fin 2018.
Et une autre sanction américaine s'applique à partir d'aujourd'hui. Cette fois, elle vise Cuba, sanction qui permet aux Américains d'origine cubaine de récupérer des biens spoliés par la révolution de Fidel Castro. Cela ouvre la voie à de nombreux contentieux judiciaires et cela élargit un peu plus le spectre des attaques économiques, commerciales de Washington. Pour pousser cette réflexion, retrouvez l'entretien en longueur avec le chercheur Ali Laidi. Les études montrent selon lui que les sanctions n'ont pas d'efficacité. C'est un entretien à retrouver sur notre site franceculture.fr. Par ailleurs, la chef de la diplomatie européenne prévient déjà ce matin. L'Union européenne prendra des mesures contre ces nouvelles sanctions américaines.
8h12, la suite du journal sur France Culture. Et donc la caravane des Européennes à présent qui nous emmène ce matin du côté du Luxembourg.
Oui, après l'Allemagne, la France, l'Italie, voici un autre pays fondateur de l'Union européenne en campagne pour les élections européennes du 26 mai prochain. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Le Luxembourg est l'un des plus petits pays de l'Union, mais le plus riche. Et il a joué, Angélique, un rôle clé dans la construction européenne.
Oui, rappelons que c'est d'abord un mouchoir de poche, hein, 2500 km², mais qui occupe une position géographique, linguistique et économique vraiment stratégique dans l'Union européenne. Le Grand-Duché partage des frontières avec l'Allemagne, la France et la Belgique. Il a été malmené par les deux guerres mondiales. Ses habitants ont donc toujours vu dans la construction européenne le meilleur moyen de se protéger. Dès 1944, le Luxembourg fonde le Benelux avec les Belges et les Pays-Bas. Et en 1951, il participe tout naturellement à la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le début de l'Union. Avec Bruxelles et Strasbourg, la ville de Luxembourg, qui porte le même nom que le pays, est donc l'une des trois capitales de l'UE. Elle abrite, rappelons-le, plusieurs institutions, peu médiatiques mais très puissantes. La Cour européenne de justice, la Banque européenne d'investissement, la Cour des comptes et puis un certain nombre de conseils des ministres s'y tient trois fois par an. 9500 fonctionnaires européens y travaillent chaque jour.
Et le Grand-Duché, Angélique, a-t-il aussi un rôle politique stratégique ?
Oui, pas seulement en sa qualité de pays fondateur, mais aussi parce qu'on y parle trois langues, le luxembourgeois, le français et l'allemand. On y reçoit aussi les chaînes de télévision de ces pays. Et ces responsables sont donc familiers des deux cultures. L'Europe, on le sait, s'est fabriquée à coups de compromis. Bien souvent, des responsables luxembourgeois ont été le trait d'union entre Paris et Berlin. La construction européenne leur doit vraiment beaucoup. Et les luxembourgeois occupent souvent des postes clés ici à Bruxelles. On pense évidemment en ce moment à Jean-Claude Juncker, l'actuel président de la Commission. Un petit pays influent donc et, on le disait, extrêmement riche. Son PIB par habitant est de 81 000 euros, c'est 3 fois plus que la moyenne européenne. Riche grâce notamment à son attractivité fiscale, il fut longtemps dans la liste noire des paradis fiscaux. En 2014, le scandale LuxLeaks lève le voile sur ses activités jugées déloyales par ses partenaires. Depuis 2017, le Luxembourg a donc signé avec les 28 États membres la directive qui impose plus de transparence, mais cela reste l'une des places financières parmi les plus attractives au monde. Et puis, c'est le deuxième pays le plus riche après le Qatar.
Merci beaucoup Angélique Boin pour ces précisions. Angélique, nous vous retrouvons demain en Belgique, suite et fin de la caravane de France Culture dans les pays fondateurs de l'Union. Le journal de 8h sera d'ailleurs délocalisé pour l'occasion. Nous serons en direct demain de Bruxelles. Notons enfin que le Brexit pourrait sauver la Syrie d'Ascoval dans le Nord. Le tribunal de Strasbourg doit statuer ce matin sur la reprise ou non du site de Saint-Saulve. Un seul repreneur est jugé crédible par les salariés. Il s'agit de British Steel qui emploie 5000 personnes entre le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France. Un rachat de cette usine à Ascoval permettrait à l'entreprise d'anticiper le retrait britannique de l'Union européenne. Le temps sera instable ce jeudi sur l'Hexagone, un temps marqué par des averses. Seules les côtes atlantiques et la Corse pourraient y échapper. Il fait ce matin 12 degrés à Rennes, 13 à Lille et Paris, 15 degrés à Strasbourg et Lyon, 18 à Bastia.